Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre importante série, La victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 14 et le titre sera Affronter l'accusateur. Affronter l'accusateur. La Sainte Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, « Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. » Die Offenbarung, chapitre 12, versets 10 à 11. Ces paroles vitales sont la clé du combat efficace contre notre ennemi. Le problème se trouve dans le fait que nous les lisons superficiellement, sans même percevoir la vérité qui nous libérera, et encore moins en les utilisant dans notre vie de prière. Des deux conditions cruciales pour vaincre l'ennemi, la première est la suivante. Les frères, victimes d'abondantes accusations, ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau. La deuxième, c'est par la sainte parole de leur témoignage. Donc, leur puissance pour vaincre est uniquement l'œuvre de Jésus à leur endroit, et leur témoignage de cette œuvre vis-à-vis de Satan. Avant de pouvoir vaincre Satan dans le combat spirituel, il nous faut comprendre pourquoi il est appelé l'accusateur des frères et comment Dieu a pourvu afin que nous puissions triompher de ses accusations. Satan nous haït et il nous méprise. Comme nous l'avons déjà dit, son humiliation est en partie due à ce que nous qui sommes imparfaits, quoique nous nous dirigeons vers la perfection, nous avons autorité sur lui. Il fut créé parfait en puissance et en beauté, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il se considère comme étant une créature supérieure, nous surpassant de loin dans tous les domaines. Il éprouve à notre égard un ressentiment violent et il cherche continuellement à mettre en évidence nos nombreux défauts, nos faiblesses, nos échecs et nos traits de caractère négatifs. Nous devons donc nous rendre compte que Satan est encore bien plus puissant et intelligent qu'aucun être humain de l'humanité tout entière. Réalisons bien cela. Lorsque nous décidons de résister à Satan, nous ne pouvons jamais le faire qu'uniquement à cause de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Nous ne pouvons absolument pas nous baser sur notre ministère, notre engagement, notre fidélité ou quelque autre mérite que en tant que chrétiens mûrs et conséquents. Et nous pourrions donc avoir la victoire. Voyez-vous, tout crédit diminue et disparaît devant celui qui est passé maître dans l'exercice, il faut bien le dire, de dévoiler toutes nos faiblesses et ainsi de les monter en épingle. un célèbre serviteur de Dieu d'autrefois nous a fait part de la révélation qu'il a reçue que tout croyant possède un imitateur démoniaque qui le connaît et qui l'a catalogué, qui a établi de lui un tableau psychologique complet, et cela à la seule fin de le vaincre dans le combat spirituel. Cette vaste connaissance de leur sujet apporte de l'eau au moulin de l'ennemi dans ses accusations lorsque nous nous levons pour lui résister. Ces accusations sont ce que Éphésiens chapitre 6 verset 16 appelle les traits enflammés. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces traits enflammés sont les voix condamnatrices envoyées par Satan dès que nous commençons à lui résister. Ces voix peuvent nous parvenir au travers de la bouche d'autrui, mais elles viennent le plus souvent à nos oreilles spirituelles sous forme de pensées auto-accusatrices. Ce sont les voix des démons qui nous envoient leurs traits enflammés. Satan envoie toujours des coups bas lesquels coups ont pour but de nous faire reculer. Nous sentons ainsi vaincus, condamnés, comme ayant perdu notre assurance en Christ. Ainsi, tout penaud, nous renonçons au combat et donnons la victoire à Satan sous prétexte que nous ne sommes pas assez bons ou que nous ne sommes pas assez sanctifiés ou assez parfaits pour lui tenir tête. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous avons une chose à faire, par-dessus tout, afin d'être rendus capables d'affronter les voies condamnatrices de Satan, la seule arme destinée à briser ses flèches, c'est le bouclier de la foi. Prenez ce bouclier et éteignez-les. Éteindre, cela veut dire arroser comme avec de l'eau. C'est Dieu qui détient l'eau qui mettra fin aux traits enflammés des accusations de Satan, et cette eau, c'est la vérité. Oui, une portion particulière de la vérité divine que l'apôtre Paul nomme le bouclier de la foi. Voici le témoignage d'un pasteur. Voici ce qu'il dit. Je suis par nature plutôt un beau spécimen d'une noble éducation. Malheureusement, depuis tout jeune, j'avais l'habitude de faire beaucoup de compliments exagérés parfois aux femmes, même mariées. Or, voilà qu'un jour, la femme d'un de mes paroissiens est tombée amoureuse de moi. Cela m'a presque fait perdre mon poste de pasteur. Et par la grâce de l'Esprit-Saint, j'ai compris que c'était un démon imitateur qui m'avait utilisé pour me perdre. Oui, chers amis, quel est ce bouclier de la foi? Au sujet de la foi, l'apôtre Pierre nous dit dans 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, « Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons obtenu la foi par la justice de Dieu en Christ. Notre foi, le fondement de notre confiance, elle repose sur une seule chose. Nous sommes sauvés par grâce et non pas par nos œuvres. Nous bénéficions d'une justice qui nous a été imputée sans que nous la méritions. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus devient notre péché et sa parfaite justice nous a été attribuée. Chers amis, nous résistons à Satan parce que la parfaite justice de Christ nous a été imputée. Son pouvoir sur nous, il est dû au péché. Mais nous sommes justifiés, donc rendus justes, par le sang précieux de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 5, verset 9. Et nous devons témoigner de nos bouches de la vérité du sang de l'agneau. Nous ne témoignons pas à Dieu, mais à l'accusateur que nous sommes rendus justes par le sang de l'agneau. Satan essaye de nous vaincre par notre vision charnelle, on peut dire charnelle, de nous-mêmes. En effet, voyez-vous, notre victoire, elle vient lorsque nous réalisons ce qui a été accompli pour nous, et oui, par le sang, et ce que nous sommes en Christ selon la sainte parole de Dieu. Et quand nous résistons activement à Satan par la confession de notre bouche, il s'enfuit loin de nous. Or Satan sait que vous êtes justice de Dieu en Christ, mais il sait aussi que vous n'avez pas encore atteint la perfection et il vise plus particulièrement nos points de faiblesse, nos points faibles quand commence le combat. Donc, il sait ce que le sang a fait pour nous, mais il ne sait pas si vous en êtes conscient, ni même si, en le sachant, vous serez capable d'utiliser cette vérité contre lui. Alors, montrons-le lui. Alléluia. Je ne pourrai jamais être aussi juste que Christ, et ça c'est vrai. Mais je n'en suis pas moins déclaré juste par la sainte parole de Dieu. Cela s'appelle justice légale. Si Dieu le dit, qui oserait le contester? Qui oserait le contredire ou en discuter? Qui oserait nous condamner ou nous accuser? C'est précisément l'argument de l'apôtre Paul en Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Il dit que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-là même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, c'est lui qui est celui qui condamne. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Le diable fera tout pour vous imposer une vision charnelle de vous-même. Il essayera de vous montrer vos propres manquements, ce que vous êtes dans votre faible chair, afin que vous ne vous voyiez pas à la lumière du Nouveau Testament. Si vous ne laissez faire, eh bien, si vous vous laissez faire, eh bien, voyez-vous, vous vous écroulerez tôt ou tard. Il faut donc refuser cette tentation et demeurer fondé sur ce que Jésus a fait pour vous. Je vois un exemple de cela dans la vie de David lorsqu'il a affronté Goliath en 1 Samuel chapitre 17. Il est dit que le Philistin regarda et il a vu David et il a commencé tout de suite à le mépriser, car c'était un jeune homme au teint rosé et beau de visage. Et le Philistin dit à David, « Voyons, suis-je un chien, moi, que tu viennes à moi simplement avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par tous ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens donc vers moi, et je te donnerai, oui, je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux, et aux bêtes des champs. » Et David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au saint nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. » Versets 42 à 45 de 1 Samuel chapitre 17. Goliath commença donc par essayer de faire en sorte que David se voie uniquement d'un point de vue humain. Il est semblable à Satan. Il dédaignait ou méprisait David. Pour quelle raison? On ne pouvait guère comparer sa force, sa puissance, ses talents de guerrier à ceux de cet enfant misérable. Il était donc insulté, et c'est toujours de cette manière-là que Satan va à notre rencontre. Voyez-vous, il se moque de manière injurieuse, rappelant nos nombreux échecs, nous faisant remarquer que nous ne sommes que des enfants inaptes et que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous devons apprendre à lui répondre comme David l'a fait aux Philistins, « Je viens contre toi au saint nom de l'Éternel. » Ce n'est pas par ses propres forces qu'il a affronté Goliath. Ce n'est pas à cause de ce qu'il était, mais de ce que l'Éternel était pour lui. Il refusa de considérer ce qui était humain. Il évita ainsi le piège. Il n'est pas tombé dans le piège. Donc, chers amis, dites à Satan, oui, tu as raison, j'ai souvent échoué, d'accord, j'ai échoué dans le domaine dont tu parles, mais ce n'est pas à cause de mes prouesses que je te résiste en ce moment, mais c'est à cause de ce que a fait Jésus. Et je m'appuie sur son œuvre accomplie au calvaire. Je m'appuie sur la parfaite justice qu'il m'a imputée et je confesse que tu es un ennemi vaincu. Alors, arrière de moi, j'agis par le saint nom de Jésus-Christ, de celui qui t'a vaincu et qui m'a donné autorité pour te lier. Voyez-vous les dimensions de Goliath comparées à celles de l'adolescent fluet qu'était David n'ont pas empêché qu'un seul caillou bien dirigé l'a totalement abattu. L'immense puissance intellectuelle et spirituelle exercée par Satan sur toutes les nations, les tribus et les peuples de toutes langues comparé à notre apprentissage et notre manque d'expérience en matière spirituelle, n'empêche pas que notre témoignage de ce qu'a fait pour nous le précieux sang de Jésus le fera fuir loin de nous. Le sang de Jésus, c'est le fondement, c'est la base de toute autorité humaine sur Satan. Il est indispensable que nous sachions ce que le sang a accompli pour vous et pour moi. Mais le savoir, cela ne suffit pas pour assurer la victoire. Nous devons aussi nous servir avec force de ce savoir en confessant la puissance de son sang, de sa parfaite efficacité à notre endroit. Et voilà donc le premier pas. C'est la clé du combat spirituel. David dit, il enseigne mes mains à combattre. Psaume 18, verset 34. Comment Dieu nous enseigne-t-il? Il nous apprend à nous servir de l'épée de l'Esprit qui est la sainte parole de Dieu. Il nous faut absolument apprendre, car, qu'on le veuille ou non, nous sommes engagés dans une guerre. En serons-nous des victimes ou des vainqueurs? Nous devons faire ce choix. La décision nous appartient à vous et à moi. Chers amis, il est de plus en plus évident que le combat spirituel s'intensifie. Les satanistes et l'islamisme ont déclaré ouvertement la guerre à l'Église, à ses responsables et à leur famille. Le couple chrétien est particulièrement visé par l'ennemi à l'heure actuelle. Nous avons appris récemment que certains groupes musulmans jeûnent en même temps qu'ils prient leur Dieu, et cela pour la défaite de tout ce qui représente Jésus-Christ sur cette terre. Notre ennemi apprend bien, il apprend à se servir de ses armes spirituelles contre nous. Eh bien, nous aussi, nous devons apprendre. Ces armes données par le Seigneur sont des armes spirituelles destinées au combat déchaîné dans les lieux célestes entre deux armées formées de puissants êtres spirituels. Peut-être direz-vous, voyons, si ce combat là-haut se passe dans le domaine spirituel et entre les êtres du même domaine spirituel, alors en quoi cela peut-il me concerner? Mais c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Il est dit qu'il y a eu un combat dans le ciel. L'archange Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel qui disait « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. » Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Donc cette image, elle nous montre une lutte qui est entre guerriers puissants et surnaturels. Les anges du Seigneur, à la tête desquels se trouve l'archange Michel, l'emportent sur Satan et sur ses anges méchants. Mais la victoire est-elle due uniquement à Michel et à ses anges? Non. Relisez un peu ce passage. La victoire est remportée par les frères et les sœurs qui l'ont vaincu, verset 11. Quoique les anges dans les lieux célestes luttent réellement et littéralement, la victoire a été remportée à cause de l'action des frères et sœurs sur terre. C'est là une grande vérité biblique. Nous, qui faisons partie de l'Église, nous devons saisir ce principe spirituel. Les anges représentent le moyen spirituel pour accomplir les choses promues sur terre par les humains qui sont encore sujets à la puissance de la mort. Les victoires ou les défaites inscrites là-haut ne sont que le reflet de ce qui se fait ou n'est pas fait ici sur terre. L'Écriture sainte nous parle de trois cieux. Le premier ciel, c'est notre ciel naturel que l'on nomme aussi firmament. Il s'étend aux extrémités de l'espace, aux frontières de l'univers. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu, le lieu élevé et saint où habite le Dieu Très-Haut, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Les justes habiteront là pour toujours. Le deuxième ciel est en dessous du ciel de Dieu et au-dessus du ciel naturel. Voyez-vous, quand Satan a été rejeté du ciel de Dieu, il s'est établi un centre de contrôle, un poste de commandement dans cette région. Et c'est depuis là qu'il règne sur les nations et qu'il met en œuvre son plan de régler tout seul sur la terre et sur l'univers toutes choses. Et nous voyons chaque jour le reflet de ses activités dans les gros titres de nos journaux. L'apôtre Paul parle de ce poste de commandement et des différents sièges tenus par des princes démoniaques. Cela est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Nos prières doivent donc monter vers Dieu en traversant justement ce centre de contrôle et ses réponses doivent aussi descendre à travers cette région. Est-il surprenant que nous rencontrions parfois des difficultés à voir se manifester les exaucements? Nous devons comprendre qu'un des principaux objectifs de Satan est d'intercepter la prière allant de la terre au ciel et les réponses allant du ciel à la terre. Faire obstacle à la prière de toutes les façons inimaginables, cela fait partie du combat spirituel. Chers amis, nous devrions être reconnaissants pour le petit livre de Daniel, car il nous enseigne beaucoup sur le combat spirituel et la manière de vaincre. Au chapitre 9, le prophète Daniel, pendant la captivité à Babylone, a eu tout à coup une puissante révélation. En lisant les livres des prophètes, il comprend pour la première fois, semblerait-il, que Jérémie avait prophétisé qu'au bout de 70 ans, la captivité prendrait fin. Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12. En voyant cette prophétie de restauration, Daniel a fait une chose qui devait être pour nous un défi. Il a cherché la face de Dieu dans la prière et le jeûne, et il a confessé sa promesse, comprenant que les promesses de Dieu doivent être saisies et qu'il œuvre au travers de la prière. Est-ce que nous comprenons tout cela? Car ceci est absolument indispensable. Lorsque nous prions pas, nous faisons Dieu étranger à nos affaires, car c'est par nos prières que Dieu agit. Nous devons envisager les prophéties ayant rapport au temps de la fin, non pas en croisant les bras et en attendant dans une attitude passive que cela se passe, mais avec la même attitude que celle de Daniel, car il a vu la promesse qu'il fixa son attention sur la supplication jusqu'à ce que la promesse de Dieu fût accomplie. En priant, Daniel se repentit pour la nation d'Israël et reconnut devant Dieu que c'était leur désobéissance qui les avait livrés entre les mains de l'ennemi. Son temps de jeûne et de prière avait duré plusieurs jours. Puis, dans Daniel au chapitre 10, nous voyons qu'il fut visité par un être glorieux venant du ciel. Et cet être glorieux me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici l'archange Michel, un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je restais là, auprès des rois de Perse. » Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. De tout ce que ce visiteur a dit à Daniel, après des semaines de jeûne et de prière, peut-être le plus encourageant est-il que Dieu avait tout de suite entendu sa prière et l'avait exaucée en envoyant cet être glorieux des semaines auparavant. Dieu n'était pas responsable du retard, et ce retard n'était pas dû au fait que Dieu ne voulait pas répondre, mais ce long délai a eu pour cause qu'un prince démoniaque avait intercepté l'ange lorsqu'il traversa la zone du deuxième ciel. Ce prince, c'était le chef de Perse qui maintenant est appelé l'Iran. Et ce même prince règne encore de nos jours sur cette région du globe. Il continue à détester le peuple de Dieu, les Juifs, ainsi que tous ceux qui cherchent à les aider ou à les soutenir. Et puis l'ange expliqua qu'au bout de plusieurs jours, l'archange Michel est venu à son aide, permettant ainsi l'accomplissement de cette mission auprès de Daniel. L'archange Michel, il est à la tête de tous les anges dont le ministère est de combattre pour le peuple de Dieu. Nous rencontrons souvent l'archange Michel dans les Saintes Écritures alors qu'il remplit ce rôle-là. Il existe encore une autre catégorie d'anges qui aident les hommes, et ce sont les anges messagers qui sont conduits par l'archange Gabriel. Nous voyons celui-ci annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Marie, la mère de Jésus, elle avait reçu aussi sa visite avant la naissance de Jésus. Ces êtres angéliques et très puissants nous sont envoyés par Dieu afin de nous aider lorsque nous sommes en accord avec ses principes divins. Nous avons besoin de comprendre et de saisir cette vérité impressionnante. Les prières de Daniel avaient donc un rapport direct avec les activités et les déplacements d'êtres célestes infiniment puissants qui sont au-dessus de la terre. Puis l'ange qui est venu auprès de Daniel lui révéla une vérité très importante. Il dit : « Je suis venu à cause de tes paroles. La nature des paroles confessées par Daniel avait été un élément essentiel pour la visite céleste. Il est dit « Bénissez l'Éternel, vous les anges puissants en force, qui exécutez sa parole en écoutant la voix de sa parole. » Psaume 103, verset 20. Les anges écoutent donc la parole de Dieu parler. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu dans nos prières, elle ne peut être contestée par les démons. Des anges sont donc envoyés pour accomplir la sainte parole de Dieu. Dieu s'est engagé totalement à maintenir sa vérité et ses armées célestes demeurent à son service dans ce projet. Dieu ne peut pas mentir. Chaque fois que par l'Esprit qui habite en nous, nous confessons ces paroles de nos bouches humaines, eh bien cette confession déclenche l'action des armées célestes pour accomplir la vérité de Dieu. Enfin, une constatation qui doit nous frapper particulièrement, c'est que la réponse n'est pas venue le premier jour, ni le deuxième, ni même le troisième. Le temps a donc passé, mais c'est précisément parce que Daniel persévérait, attention, il faut persévérer dans la prière pour que l'ange puisse continuer à se frayer le chemin avec la réponse. Que se serait-il passé si Daniel avait arrêté de veiller dans le jeûne et la prière? Eh bien, l'ange aurait été obligé de faire demi-tour dans la défaite. Il n'y aurait pas eu de réponse. Pouvons-nous voir combien il est important que nous devons prier? Combien la prière d'un seul homme a influencé l'histoire de l'humanité? Vous et moi avons chacun bénéficié de ces 3 semaines mises à part par Daniel dans le jeûne et la prière. Gloire à Dieu qu'il ne se soit pas découragé et qu'il ait continué jusqu'à l'arrivée de l'ange. Et nous, avons-nous continué? Ou bien nous sommes-nous découragés? Combien de combats menés dans la prière sont perdus à la veille de la victoire parce que le combattant ne perçoit pas ce qui se passe à l'intérieur du voile? Nos anges combattants ne peuvent pas aller plus loin que ce que leur permet notre prière. Ils n'agissent pas indépendamment de notre prière, mais la victoire à portée de leurs mains, elle est là si nous nous décourageons ou si nous acceptons la défaite, eh bien, ils ne peuvent pas continuer. Il est donc bon de toujours nous rappeler l'exemple de Daniel lorsque nous prions longtemps pour un certain sujet. Ne perdez jamais l'espoir. L'ange viendra. Il est en chemin. Dans Exode chapitre 17, nous trouvons une illustration de la nécessité de la prière persévérante et de l'importance de ne pas nous décourager. Saint Luc chapitre 18, verset 1 nous dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser. Notre victoire, elle résiste, plutôt elle réside dans notre confession et dans notre prise de position immuable qui est fondée sur les choses éternelles qui ne peuvent jamais changer. Tant que nous sommes établis sur ces choses, nous ne serons ni ébranlés, ni vaincus. Moïse, en mettant en évidence la verge, il est comme cet intercesseur qui met en évidence les vérités divines qui nous ont libérés de la domination et de l'oppression de Satan. Veuillez, s'il vous plaît, lire attentivement Exode, chapitre 17, depuis le verset 8 jusqu'au verset 16. L'intercesseur, c'est celui qui monte sur la colline de la prière, l'étendard de la vérité à la main, et qui proclame, qui témoigne aux ordres infernales et démoniaques. Il proclame la vérité de l'Évangile, remportée pour nous par Jésus-Christ, notre capitaine au calvaire. Aucun démon ne peut résister à la puissance de la vérité lorsque un peuple s'en sert courageusement pour lui faire front. Voici une sœur qui a eu une vision au Guatemala. Écoutez bien cela. À l'époque où le gouvernement guatémaltèque fut renversé, le président Rias Montt, un chrétien rempli du Saint-Esprit, était au pouvoir et son pays vivait un temps de délivrance lorsque un coup d'État lui fit perdre ses fonctions et plongea le pays dans la confusion et dans l'oppression. Lorsque cette femme priait pour son pays, elle reçut une vision. Elle a pu voir, bien au-dessus du siège gouvernemental du Guatemala, des anges qui luttaient. Les anges de Dieu combattaient pour son pays, mais les anges de Satan leur résistaient, et alors qu'elle regardait, quel ne fut pas son ahurissement de voir Satan et ses anges vaincre les anges de Dieu. Beaucoup d'entre vous qui écoutez maintenant, vous allez penser que c'est impossible. Mais essayons de comprendre. Comment cela peut-il se faire, Seigneur ? Protesta cette sainte femme. Comment est-ce possible que Satan a pu avoir le dessus sur Dieu ? Eh bien, par le Saint-Esprit, elle a reçu la réponse. Mes anges ne peuvent combattre que lorsque mon peuple prie. Avez-vous compris ? Quand mon peuple, les frères et sœurs, ne prie pas, mes anges ne peuvent pas gagner leur bataille. Comme nous l'avons déjà dit, sans la prière, Dieu ne répond pas. Ses anges ne peuvent agir pour nous que lorsque nous mettons en évidence la verge de Dieu avec force et dans la foi. Même si la bataille est longue, eh bien nous devons continuer et ne pas nous lasser. Le prophète Daniel, au chapitre 7, verset 25, nous dit que Satan consumera ou usera les saints du Très-Haut. Et quand nous verrons et que nous comprendrons ce qui se passe derrière le voile lorsque nous prions, nous ne nous lasserons pas et nous ne nous découragerons pas. Mais nous saurons que les anges sont en train de percer. Alors, s'il vous plaît, persévérons pour qu'ils puissent continuer. Puis cette sœur posa une autre question au Seigneur. Si la prière donne à tes anges le pouvoir de triompher, de quoi vient le pouvoir des anges de Satan. Eh bien, vous voyez, écoutez un peu la réponse du Seigneur par l'Esprit Saint. C'est uniquement le péché qui donne la puissance à Satan. Le péché. Puis les hommes, plus que les hommes, et j'ajoute les femmes, plus que on pêche, qu'on commet n'importe quoi, plus les armées sataniques d'oppression peuvent s'établir au-dessus d'eux, au-dessus de nous. Les forces démoniaques peuvent être maintenues sur une ville ou sur une nation à cause de la méchanceté des hommes, et cela d'autant plus lorsque ces hommes méchants occupent des places de responsabilité et d'autorité. Ceci explique l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Afin de libérer une nation ou une ville des bastions démoniaques, il est donc nécessaire que ceux qui les y ont placés changent. Il est donc indispensable que nos autorités soient continuellement portées dans la prière. Or, les choses dans ce monde, elles vont de plus en plus mal. Reconnaissons qu'il y a 80%, même 90% de chrétiens, simplement des chrétiens de nom, et plus que tièdes, ils sont des chrétiens que la Bible appelle des chrétiens tièdes. Or, il ne reste qu'une minorité qui sont de véritables chrétiens. Or, face aux islamistes musulmans fanatisés, avec le puissant soutien du prince de ce monde, tous ces hordes de démons, donc, ont la bataille, et de plus en plus, ils peuvent se battre, et notre combat devient ainsi de plus en plus difficile. Chers amis, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui cette étude. Nous la poursuivrons, Dieu voulant, demain. Et je voudrais simplement terminer par la prière. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez écouter des centaines et des centaines d'études bibliques sur www.bibleexplique.ch. Prions maintenant. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Ô mon Père céleste, Dieu notre Père, nous donne maintenant, il nous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est bien celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, à ceux qui veulent accepter la main tendue de Jésus-Christ pour reconnaître qu'ils sont perdus et pour l'accepter pour recevoir la vie éternelle. Soyez donc bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur, sachez-le, il vous aime. Et il aime surtout tous ceux qui un jour ont compris son message, ont compris ce que j'ai compris en son temps. Or, je dois vous avouer, j'ai dû lire 3 fois l'évangile de Saint Jean pour comprendre que j'étais perdu. Mais finalement, j'ai compris. Ma femme, qui était beaucoup plus avancée spirituellement, elle a simplement dû le lire 1 fois pour tout comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt à nouveau. Au revoir, très chers frères et sœurs. Amen.